C'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous retrouver autour de la parole de Dieu. J'ai eu du mal à préparer un message parce que je pensais à beaucoup de choses, mais j'ai été arrêté par le Seigneur. Il m'a demandé de faire un feedback sur tout ce qui a été déjà partagé. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Parce qu'on a eu à partager sur beaucoup de choses. Donc je ne savais pas réellement comment faire. Mais le Seigneur, il est très sage. Il m'a demandé de procéder autrement, en marchant simplement avec un monsieur, un personnage important de la Bible. Et dans notre marche avec lui, au fur et à mesure, nous allons revenir pas à pas sur tout ce que nous avons, en tout cas, eu à voir depuis un moment. Ce personnage s'appelle Job. Job, je pense que c'est un personnage que nous connaissons bien dans la Bible. C'est le type du chrétien qui rencontre des difficultés. Ça peut être un chrétien, ça peut être une église, ça peut être en tout cas une situation que nous vivons dans nos vies, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et voilà que, par la grâce de Dieu, Job va s'en sortir. Donc, ce qui est bien, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on peut imaginer, il y a toujours. Job va permettre l'accomplissement aussi de ce verset que nous connaissons dans le psaume 34. Le malheur peut frapper le juste. Dieu le dit et Job est un exemple. Mais il faut toujours croire à la deuxième partie de cette phrase. L'Éternel délivre toujours le juste. Si j'affaiblis la deuxième phrase, j'affaiblis Dieu et en ce moment je décide de ne pas compter sur Dieu. Voilà un monsieur, nous n'allons pas revenir sur les circonstances de sa maladie, qu'est-ce qui a été à l'origine, pour ne pas tomber dans les polémiques, mais nous allons, comme un frère qu'on rencontre dans une église qui traverse une situation difficile, comment ce frère-là, quels sont les tuyaux que Dieu met devant lui pour qu'il puisse se prendre la main et s'en sortir. Et c'est très 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 important. Je peux connaître une situation de faiblesse, mais qu'est-ce que Dieu a prévu devant moi pour que je puisse m'en sortir? Et c'est ça que nous allons voir avec Job. Job était un homme très 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 riche et qui, dans un laps de temps, va tout perdre. Mais dans sa richesse, Job va faire des connaissances. Il va avoir des potes. Il va avoir des amis. Et la Bible nous dit que Job, quand il va tomber malade, il y a trois amis qui vont venir rendre visite à Job. C'est très, 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 très important d'avoir des amis. Nous savons qu'une amitié ne se construit pas en une journée. Il faut du temps pour construire une amitié. C'est-à-dire que Job et ses amis sûrement se fréquentaient pour le plaisir et non par intérêt. Un ami, c'est quelqu'un qui peut mettre en stand-by ses business, ses affaires, laisser même sa famille pour aller aider celui qui souffre. Ça, c'est un ami. L'ami, c'est quelqu'un dont on se préoccupe, mais aussi qui se préoccupe de nous. Un ami ne sait jamais de profiter de l'autre. L'ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais aussi qui peut compter sur nous. C'est aussi quelqu'un avec qui on prend plaisir à être. Et nous connaissons bien cet adage qui dit que c'est dans les difficultés que nous reconnaissons nos vrais amis. Donc, voilà des gens qui vont rendre visite à leurs amis. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment des amis. Job était riche, il a tout perdu. Ils ne marchaient pas avec Job par intérêt. Ils sont venus assister Job. Ils sont venus le consoler. Donc c'est vraiment important d'avoir des amis. Mais l'une des choses importantes que Dieu nous révèle dans le livre de Job, et c'est sur cet aspect que nous allons un peu avancer, c'est qu'il peut arriver dans nos vies des situations où nos amis sont limités. Malgré leur bonne volonté, malgré le fait qu'ils ont pris de leur temps, ils ont fait des sacrifices pour venir nous consoler, voilà que nos amis sont limités. Job va rentrer dans une longue causerie avec ses amis. Et quand on lit le livre de Job, Dieu, il a tellement de l'humour. Par moments, quand je lis, je rigole. Il y a 4 personnes autour de Job. Mais du chapitre 34 jusqu'au chapitre 31, la Bible présente que 3. Qui sont les amis de Job. Alors qu'il y a un 4e qui est là et qui est silencieux. Qui est une connaissance de Job. Mais la Bible fait semblant de se taire sur cette personne. Tout ceci pour nous montrer par moments les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Voilà que Job a la visite de ses amis. Et un frère qui est aussi un croyant qui est autour de Job. Mais qu'est-ce que Job va faire? Job va rentrer dans un processus d'échange uniquement avec ses amis. Nos amis, ayons l'humilité de reconnaître qu'il y a des situations où ils ne peuvent pas nous aider. Et si on n'est pas conscient de ça, on va s'embourber dans un processus dont le but final, c'est l'épuisement, voire même la dépression. Parce que nos amis peuvent être limités. Mais ce qui est formidable, c'est que le corps de Christ n'est jamais limité. Le corps de Christ n'est jamais, jamais limité. Mais Job ne peut pas comprendre ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est pourquoi les personnages de l'Ancien Testament, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous servir de modèle, mais jusqu'à une limite. Parce que eux, ils manquent de révélation par rapport à nous. Tous les les hommes de l'Ancien Testament constituent l'ombre des événements à venir. Ils peuvent nous aider, mais ils sont limités par rapport à certaines choses. Et c'est le cas du corps de Christ ici. Job et ses amis n'ont pas discerné celui qui était à côté. Et c'est l'une des difficultés que nous avons par moment dans l'Église. Le fait de naître dans une église, le fait de naître dans une famille, le fait de vivre ensemble ici ce matin, comme nous le faisons, cela n'entraîne pas obligatoirement la communion des membres de cette famille, la communion des membres de l'église. Dans l'église, la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est qu'on vit plus la tolérance que la communion. Notre bonne éducation nous donne de nous respecter, de communiquer par moment, d'avoir un certain degré de respect pour les gens. Mais ce n'est pas la communion selon le modèle biblique. On peut même s'asseoir ensemble à des repas fraternels. On peut même manger ensemble. Mais ce n'est pas ça, la communion. La présence physique ne crée pas obligatoirement la communion des membres d'une église. Pourquoi? Parce que le fait que chacun de nous soit ici ce matin n'est pas de notre volonté. C'est Dieu qui nous a régénérés par sa parole et nous a réunis dans cette église. Donc ça, c'est l'acte souverain de Dieu. Mais pour ce qui est de la communion, c'est autre chose. La communion, c'est un choix. La communion, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire quoi? Je prends la décision en tant qu'individu, en tant que personne régénérée par quoi? La parole permanente et incorruptible de Dieu. Je décide moi de reconnaître mon frère ou ma soeur. Ça, c'est moi, ma décision. Je suis obligé de le faire si je veux réellement vivre ce que Dieu appelle la communion. Et quand je prends cette décision, c'est quels que soient les événements qui peuvent arriver. Je décide de communier avec chacun de mes frères. C'est pourquoi l'Église n'est pas une association. L'Église est une communauté où des personnes ont décidé de mettre tout en commun. Et on voit, quand on dit tout en commun, qu'on est encore loin du modèle biblique. Une communauté de croyants qui ont décidé de se reconnaître mutuellement. Qui ont décidé de se reconnaître mutuellement, qui ont décidé de s'aimer mutuellement, qui ont décidé de se protéger mutuellement. Mais des personnes aussi qui ont décidé de se défendre mutuellement, quoi qu'il advienne. Voilà l'image d'une communauté. Mais ce n'est pas que se vilipender, de se critiquer. Ça, ce n'est pas une église, c'est plus une association. Et l'église n'a qu'un seul choix, emprunter la voie de l'excellence. Marcher dans l'amour. Il est dangereux de rester au stade de la relation, Dieu nous impose de monter sur le palier supérieur qui est la communion. La relation entre un homme et puis une femme peut mettre au monde des enfants. Mais c'est uniquement la communion qui amène le bonheur dans le foyer. Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants dans une famille que la famille est heureuse. Ce n'est pas parce qu'il y a eu mariage que la famille est heureuse. Ce n'est pas parce qu'il y a des membres dans une église que l'église est heureuse. C'est quand il y a communion qu'on commence à constater le bonheur. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude d'aider les couples, quand on essaie de régler un conflit chez des personnes qui n'ont qu'une relation, on voit qu'il y a des récidives. Le seul cadre où un conflit peut se régler, c'est dans le cadre de la communion. On va au stade de tolérer l'autre, de pardonner, d'oublier. Au stade de la relation, c'est difficile. Et c'est le palier que Dieu nous demande de jeûner. Aller au stade de la communion. Mais Job et ses amis, il y a ce jeune homme-là qui était assis là, qui a pris le temps de les écouter, de faire attention à tout ce qu'ils disaient. Mais il n'avait aucun égard pour ce jeune homme-là. C'était eux les sages. C'était eux qui avaient les solutions. Et Job se sentait obligé de répondre à ses amis. Même quand ses amis l'épuisaient, il se sentait obligé parce que ce sont ses amis. On peut se laisser épuiser parce qu'on est à l'aise avec nos amis. Même s'ils nous enfoncent, ce sont nos amis. Mais on n'est pas à l'aise avec quelqu'un avec qui on n'est pas habitué, même si c'est un frère. Et par moments, c'est ce que nous vivons. On est à l'aise dans l'église avec nos amis. Dieu nous dit, étendez vos limites. Allez et profitez du corps du Christ qui est illimité. Les amis, dans certaines situations, peuvent être limités. Et ça, c'est très, très, très important. Mais ce jeune homme va rester avec eux. Il va prendre le temps de les écouter. Il va manifester la patience par amour pour Job. Mais quand il va prendre la parole, ça va être une bombe. Il va remettre Job et ses amis à leur place. Il va utiliser un ton tellement ferme qu'on va penser que c'est de l'arrogance. Mais non. Quand un frère est dans les difficultés et qu'il emprunte une voie qui peut le conduire vers la catastrophe, il faut savoir dépendre du Saint-Esprit et remonter cette personne. Et c'est ce que ce jeune homme-là va faire. Il va attendre quand ces vieillards-là vont être épuisés, il va commencer à leur parler. C'est dans le chapitre 32. La vie chrétienne est basée sur des certitudes. La vie chrétienne n'est pas basée sur des suppositions. La vie chrétienne est basée sur des faits. Et si ma vie n'est pas basée sur des faits bibliques, je vais avoir une vie chrétienne yo-yo. Regardons ce que ce jeune homme-là est en train de dire. Et moi, qui suis un étudiant de la Bible, je dois graver ça dans mon cœur. Si ce que ce jeune homme-là est en train de mentionner, c'est encore des suppositions dans ma tête, il y a un problème. Regardons ce qu'il dit. Regardons les termes qu'il utilise. Au verset 7 du chapitre 32. Je disais à moi-même, les jours parleront, Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce jeune homme-là est en train d'affirmer que le souffle du Tout-Puissant, c'est celui-là seul qui donne l'intelligence. Il était assis par politesse, il a laissé ses vieillards là parler. Mais à force de les écouter, il tire la conclusion que, en réalité, sur cette terre, il n'y a aucun coefficient de corrélation entre l'âge et la sagesse. Et que la sagesse a une seule source, l'Esprit de Dieu. La sagesse a une seule source. C'est pourquoi Dieu, on ne peut pas dribbler Dieu. Sa parole est telle que si je veux avoir accès à sa sagesse, je dois aller le consulter. L'homme, naturellement, est très, très, très intelligent. Et ce n'est pas de ça que Dieu parle ici. L'homme peut faire des miracles sans Dieu. On l'a vu dans Genèse 11. Des hommes se sont assis sans demander l'aide à Dieu. Ils se sont réunis et ils ont décidé, sans l'aide de Dieu, de bâtir une ville et de bâtir une tour qui peut toucher le ciel, sans tout ce qu'on a aujourd'hui comme matériaux modernes. L'homme est intelligent. Dieu a regardé, il a eu peur de l'homme que lui-même il a créé. L'homme peut créer un cœur artificiel et le mettre dans l'autre et ça va fonctionner. L'homme peut construire une basilique, une cathédrale, mais vide de la présence de Dieu. L'homme est très intelligent, mais ce n'est pas de ça que la Bible nous parle. Regardons ce qu'il dit au verset 21. Il dit, Job, je sais que tout le monde sait que tu souffres. Je sais que tout le monde sait que tu es dans une situation de faiblesse. Mais sois conscient d'une chose. Par rapport à ce que je vais te dire, sois conscient que je n'aurai point égard à ton apparence. Parce que si je regarde à ton apparence, je ne vais jamais te dire ce que Dieu pense de toi. Donc je ne vais pas regarder et je ne vais pas faire semblant par rapport à ta situation. Sois conscient de ce que Dieu veut te dire. Car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Il faut le courage pour aider quelqu'un qui souffre. Il faut le courage pour dire à la personne que malgré sa situation, Dieu peut encore la relever et l'amener à faire de grandes choses. Mais quand on est accompagné de quelqu'un qui nous dit que Dieu est limité, quand depuis un moment on nous dit que Dieu ne guérit pas, que c'est après notre mort que Dieu va nous guérir, ok, petit à petit, la forteresse se met en place. Petit à petit, la forteresse se met en place. Ceux qui vont sur un terrain, un chantier, ils connaissent ce qu'on appelle le béton. Le poteau qui est là, si on le coule de suite de béton, je peux demander à Timothée de démolir ce béton. Mais dès que ça fait 2 jours, 3 jours et que ça prend en masse, il faut une pelleteuse. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'hommes. À force d'entendre que Dieu est limité, à force d'entendre que Dieu ne peut plus, quand quelqu'un vient leur dire que Dieu peut, ils ne peuvent pas croire. Parce que la forteresse est installée. Et c'est ça que ce jeune homme-là va dire à Job. Il va utiliser une pelleteuse pour amener Job à comprendre ce que Dieu pense. Il faut apprendre à reconnaître les gens. Et ça, c'était la force de Barnabas. Barnabas savait reconnaître dans les indigents de l'église Christ. Il savait reconnaître dans les gens qui étaient rejetés, comme Paul, il a reconnu. Si je ne reconnais pas les gens, je peux manquer ce que Dieu veut me faire. Il dit à Job au verset 14 du chapitre 33, est-ce que tu sais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Est-ce que Job, tu es conscient de ça? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous les hommes qui ne faisons pas attention à la manière de communiquer de Dieu. Mais Dieu parle. Il peut utiliser qui il veut pour parler. À nous de tendre l'oreille. Il ne va pas demander notre avis pour utiliser un instrument. Dieu parle. Il utilise une pelleteuse pour ramener Job à la réalité. Au verset 35 du chapitre 34, il dit « Job parle sans intelligence ». Comment tu peux oser dire à quelqu'un qui souffre qu'il parle comme sans intelligence? Parce que Job est en train d'emprunter un chemin où il n'a plus confiance en Dieu. Où il a tellement limité Dieu qu'il ne s'attend même plus à Dieu. On peut voir ce que Job disait. Quand on voit au chapitre 10. Regardez les propos de Job. Job dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Job, ses amis l'ont tellement embourbé dans une situation de non-retour que Job pensait plus à la vie. Job pensait plus que ses business pouvaient revenir. Job pensait plus que ses affaires pouvaient remonter. Pourquoi? Parce qu'il est embourbé dans une relation avec ses amis et il se plaît dedans. Mon âme est dégoûtée de la vie. Mais ce jeune homme-là, il va dire ça à Job. Pourquoi Job parle comme ça? Au chapitre 36, au verset 21, il dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Quand quelqu'un est dans la souffrance, la personne est, sans le vouloir, dans un état de fragilité. On peut balloter la personne facilement. Quand une personne souffre, Il est difficile de cerner bien les choses. Et par moments, il faut utiliser une pelleteuse pour dire à la personne, non, tu as encore de la valeur, Dieu peut encore t'utiliser, Dieu peut faire encore de grandes choses avec toi. Mais il faut que la personne puisse croire à ça. C'était le cas de Job. Il fallait une pelleteuse. La forteresse était installée. Alors que nous avons vu que quand on est dans une difficulté, Dieu nous demande de plaider. Dans Isaïe 43. Et quand on plaide, on ne plaide pas avec nos paroles. Dieu veut qu'on plaide avec sa parole. Nos cris n'intéressent pas Dieu. Nos pleurs n'intéressent pas Dieu. C'est ce qui va se passer avec Job. Au chapitre 13. Regardons ce que Job dit. Job, il va se faire passer pour un grand plaideur. Chapitre 13, verset 17. Il dit, écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Job va plaider. Il va nous montrer aujourd'hui comment il plaide. Et qu'est-ce qu'il dit? Je sais que j'ai raison. Quand on souffre, c'est ce qu'on dit. Je n'ai rien fait et Dieu me frappe. Job est en train de plaider, comme le pharisien que nous venons de lire avec Élie. Au chapitre 10, pareil. Je fais un peu le tout parce qu'il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que Job dit au chapitre 10? Il dit, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Dieu, explique-moi pourquoi je souffre tant. Dieu n'entend pas ces paroles-là. Toute la Bible est basée sur des lois et sur des principes. Si si je sors dans le cadre des lois et des principes de Dieu, je suis en train de moi-même me tromper. Il dit à Dieu, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Job se plaint à Dieu. Mais Dieu dit que ça, ce genre de parole-là, il n'écoute pas ça. Il écoute que sa parole. Et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Donc, si je veux l'intervention de Dieu, il me faut m'appuyer sur ce que Dieu a dit. Pas mes cris. Job est en train de crier. Job est en train de souffrir. Mais Dieu n'entend pas ça. Pourquoi? Le jeune homme a décidé de se mettre du côté de Dieu. Il a décidé de montrer à Job que la limite qu'il fixait à Dieu, Dieu est sans limite. Dieu, si je lui fixe une limite, il va respecter ma limite et il s'arrête à la limite que je lui fixe. Il y a plusieurs exemples pour l'expliquer. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit à chaque couple sur cette terre, soyez féconds. Nous tous on le sait. Mais qui décide du nombre d'enfants? Est-ce que c'est Dieu? C'est nous. Nous disons à Dieu, moi je veux faire 2 enfants, Dieu respecte. Je veux faire 10, Dieu respecte. Et quand je l'invite pour l'éducation de ces 10, il m'aide. Mais c'est la limite que moi je fixe à Dieu, que Dieu respecte. Si je veux 3, il me donne les 3. Il respecte mon choix. Si j'ai limité Dieu dans ma vie, Dieu reste limité. Si j'étends les limites de Dieu, Dieu est illimité dans ma vie. Dieu a des lois, Dieu a des principes. Et ce jeune homme-là, petit à petit, avec stratégie, va ramener la présence de Dieu dans la vie de Job. Il va ramener la présence de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous demande en tant que croyants, en tant que corps, membre du corps de Christ. Savoir ramener la présence de Dieu dans la vie de nos frères qui souffrent. Par moments, des messages sont durs. On dit pourquoi il a parlé comme si, mais après, il y a la réconciliation. Pourquoi? Parce que le ton de Dieu, ce n'est pas nous qui le maîtrisons. Il faut accepter ce que Dieu dit. Et quand il va finir de parler, qui va venir? Les 3 amis de Job ne peuvent plus ouvrir la bouche. Job lui-même, bouche fermée. Et c'est Dieu maintenant qui va entrer en scène. Qui va mettre encore Job à sa place. Pas comme Dieu va venir physiquement, mais encore par des songes, par des visions, il va parler à Job. Il va parler à Job de cœur à cœur. Et Job va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la révélation. Seule la révélation peut transformer la vie d'un homme. Seule la révélation. Dieu nous demande de demeurer dans sa parole parce que dans sa parole, la Bible telle qu'elle est ne peut pas aider quelqu'un. Seule la révélation de la parole peut éclairer quelqu'un. On le voit dans les familles, dans une famille qui a 2, 3 ou 4 enfants. Chaque matin, chaque midi, le papa dit toujours à ses enfants, je vous aime. Je vous aime jusqu'à ce que les enfants grandissent. Et voilà que parmi les enfants, bizarrement, ils se rendent compte que parmi eux, il y a un qui connaît mieux les secrets de papa. Pourtant, papa a dit tous les jours, je vous aime. Mais ils se rendent compte qu'au milieu d'eux, il y a un qui connaît mieux les secrets de papa. Comment il a fait? Est-ce qu'il a manipulé papa? Il était collé à papa. Jésus dit, demeurez dans ma parole. Soyez collés à moi. Quand vous allez demeurer dans ma parole, il y a comme une petite fleur qui va apparaître. La connaissance de la vérité. C'est elle seule qui transforme la vie du chrétien. Ce n'est pas la lecture de la Bible. La connaissance de la vérité. Et Job va arriver à la connaissance de la vérité, au chapitre 42. Il va arriver à là. Job est le type de beaucoup de nous. On a connu Dieu sur la base des messages à l'église. On n'a pas connu Dieu par la révélation. Des bons messages nous ont encouragés. Des bons messages nous ont amenés à marcher dans l'intégrité. Mais on ne connaît pas la personne de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui sont déroutés. Voilà Job qui va dire au chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et Job connaissait Dieu par des oui-dits. Il n'avait pas la révélation de Dieu. Donc il était limité. Malgré tout ce qu'il faisait, Job était limité. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Job rentre dans le stade de la révélation de Dieu. Et regardez maintenant comment il va plaider. Il va plaider comme Dieu dit de plaider. Maintenant, il va s'appuyer sur la parole de Dieu pour plaider. Il ne va plus réciter ce qu'il racontait avant. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Mais qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? 1 Jean 1 nous dit exactement qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à je me répands. 1 Jean 1. Dieu veille uniquement sur sa parole, pas sur nos cris. 1 Jean 1, verset 9, il dit, Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Job disait à tout le monde entier qu'il n'a jamais péché, il est juste. Dieu n'a pas. C'est ce que Élie a lu ce matin. Dieu n'a pas besoin qu'on montre qu'on est juste, qu'on est saint, qu'on est pur. Il veut qu'on soit humble. Job va reconnaître qu'il est. Il va reconnaître son humilité. Et Dieu va le relever sur la base d'une petite chose. Sur la base d'une petite chose. Les voies de Dieu sont tellement simples que ça paraît fou. Les solutions que Dieu nous propose sont tellement simples que notre entendement, notre intellect est choqué par rapport aux propositions de Dieu. On veut des choses compliquées. Ce qu'on ne fait même pas à l'hôpital. Dieu est simple. Est-ce que je veux marcher dans la simplicité de Dieu? Est-ce que je vais apprendre à discerner le corps de Christ et profiter de tous les frères qui sont là? On peut fonctionner entre amis. On peut être ensemble. Mais ce n'est pas ça la communion. La communion, c'est décider d'aller vers les autres. Décider de dépendre des autres et voir dans les autres la manifestation de Christ. Si je limite Dieu, Dieu se présente comme un Dieu limité. Si j'étends les limites de Dieu, Dieu se présente comme un Dieu illimité. Si dans ma tête, je dis que Dieu ne peut pas me guérir, je m'attends à quoi? Le pasteur va prendre une pelleteuse pour venir. Comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur la fidélité de Dieu. Et laissons Dieu nous porter. Étendons les limites. Et comptons sur sa grâce. Nous allons prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que au travers de la vie de Job, tu nous montres que, Éternel, tu veilles vraiment sur ta parole. Tu as dit que tu délivres toujours le juste. Et voilà que Job, ton serviteur, tu l'as délivré. Tu as délivré Job. Une situation qui était compliquée. Tu as tout restauré, même au-delà. Père, nous sommes convaincus que dans ce que nous vivons, à titre individuel, en tant que communauté, tu tu es capable de nous porter. Tu es capable de nous relever. Tu es capable de nous amener à voir même au-delà de ce que nous espérons. Apprends-nous à marcher dans ton humilité. Apprends-nous à nous reconnaître les uns les autres. À dépendre des uns des autres, Seigneur. Et à ne pas nous focaliser sur nos amis. À ne pas nous focaliser sur ceux avec qui nous sommes proches. Je te remercie vraiment parce que ta parole est ce qu'elle est. Elle est toute puissante et tu veilles uniquement sur elle. Sois béni et merci de ce que encore tu nous portes et tu nous donnes de marcher dans l'espérance de ta parole. Amen.
Amen.
Que dirons-nous si c'est de remercier le Seigneur, comment il a conduit son serviteur pour nous apporter de sa parole? Je vais vous dire quand même que j'ai recueilli beaucoup de choses dans ce message et je pense quand même que ce soit aussi le cas de chacun de nous qui est là ce matin. Alors, pour terminer, je ne sais pas si vous avez un chant qui vous inspire, qui n'a pas beaucoup de... Voilà, à toi la gloire. Si on peut chanter un strophe, et puis sur ces chants que je vous dis bon dimanche, et que l'Esprit du Seigneur soit sur vous pendant tout le long de la semaine. Non? Bon. Oui, et il faut penser aussi à notre sœur Lydie Dassé qui est à la clinique Saint-François, je pense. Pensons à elle dans la prière.
Je ne sais pas sur quelle piste il est.
dégage. Dégage. Alors, il n'y a pas.
Comment je vais?
Il n'est pas sur une piste.
Non, mais il voit même pas le machin.
Comment on l'éteint? On le trempe dans l'eau. Il s'éteint tout seul, mais on l'éteint. On peut l'éteindre, on peut le forcer à s'éteindre.